20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, les retrouvailles au disque de Michel Portal et Michel D'Alberto ce soir, un album qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta, dans laquelle nous nous plongerons en compagnie de Michel D'Alberto qui sera tout à l'heure à notre micro. Nous partirons ensuite en voyage en Allemagne avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Mais tout d'abord quelques nouvelles du monde musical. Christian Macellaru vient d'être nommé à la tête de l'Orchestre symphonique de Cincinnati. Il succédera ainsi à Louis Langré au poste de directeur musical à compter de la saison 2025-2026. Christian Macellaru, actuel directeur musical de l'Orchestre national de France, mais aussi directeur artistique du festival et du concours Georges Enesco et chef principal de l'Orchestre symphonique de la VDR de Cologne. Le Jardin des Voix, l'Académie pour jeunes chanteurs des arts florissants, vient de révéler les 10 lauréats de sa 12e édition, parmi eux 3 Français, dont la soprano Camille Chopin, qui fait partie en ce moment de l'Académie de l'Opéra Comique et des Talents Adami. Nous avions fait sa connaissance il y a peu dans le journal du classique. Alors ces 10 jeunes chanteurs participeront la saison prochaine à 2 nouvelles productions des arts florissants. Les Arts florissants et la descente d'Orphée aux Enfers de Charpentier, sous la direction de William Christie. Et puis il Giardino di Rose de Scarlatti avec Paul Agnew, deux productions qui feront l'objet de tournées internationales. Ils seront 4 désormais à se partager la charge d'organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ont ainsi été nommés 2 organistes déjà en poste au moment de l'incendie, Olivier Latrie et Vincent Dubois, ainsi que l'organiste et compositeur Thierry Esquèche, et puis un représentant de la toute nouvelle génération, Thibaut Fajol, âgé de seulement 21 ans, et qui sera notamment amené à accompagner la maîtrise de la cathédrale. Yves Castagnier, en poste depuis 1988, demeure quant à lui titulaire de l'orgue de chœur. Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site et l'application de Radio Classique. Quelques notes de Bach, d'une fugue de Bach par Olivier Latrie sur le grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un instrument que l'on pourra redécouvrir, qui sera réveillé après 5 années de silence, le 7 décembre prochain, la veille de la réouverture de la cathédrale.
Laure Maison sur Radio Classique.
Plus de 45 ans après leur premier enregistrement commun, Michel D'Alberto et Michel Portal se sont retrouvés ensemble, derrière les mêmes micros, autour d'un programme associant quelques chefs-d'œuvre du répertoire pour clarinette et piano, un formidable album qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta, dans lequel nous allons nous plonger ce soir avec Michel D'Alberto. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous racontez dans la préface de cet album votre rencontre avec Michel Portal. Alors ça remonte à 1977. Vous êtes encore étudiant et on vous propose d'enregistrer votre premier disque et vous choisissez de le faire avec lui et de faire de la musique de chambre d'emblée. Comment est né ce projet et quels souvenirs gardez-vous de cette rencontre avec Michel Portal ?
De nombreux souvenirs, évidemment. Et heureusement encore vivaces, même s'ils ont 45 ans. En 77, j'étais effectivement encore étudiant au conservatoire. Et le label Erato, j'ai envie de dire le vrai Erato, l'authentique, m'avait proposé une sorte de carte blanche. Il m'avait dit, Michel Garcin m'avait dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et je lui avais dit, plutôt que de faire un premier disque solo, il se trouve que j'ai travaillé et joué à Radio France tout récemment 2 trios de Brahms que j'ai trouvé merveilleux. C'est le trio pour piano-violon et corps et le trio pour piano, violoncelle et clarinette. Il me dit avec qui vous avez envie de le faire. Alors je connaissais Pierre Amoyal, donc j'ai demandé à Pierre, qui était tout à fait d'accord. Et lorsque j'ai parlé à Frédéric Ledéon du trio piano, violoncelle, clarinette, il m'a dit « Ah oui, 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 mais il faut que ce soit avec Michel Portal, autrement je ne le fais pas ». Et je lui ai dit, ben écoute, d'accord, ben moi je ne le connais pas du tout, Michel Portal. Puis c'était quand même une star. Et moi j'étais encore un pianiste étudiant au conservatoire. Alors j'ai pu avoir le numéro de téléphone de Michel. Voilà, je me suis présenté, je lui ai dit, voilà, je suis là. Est-ce que vous accepteriez d'enregistrer le trio pour piano, violoncelle et clarinette ? Il m'a tout de suite dit, oui, pourquoi pas, mais il faut que ce soit avec Frédéric Lodéon, autrement je ne le fais pas. J'ai dit, bon, ben, ça règle les problèmes. On a fait l'enregistrement dans une petite église aux alentours de Paris. Et puis, on a eu plusieurs concerts. Et assez rapidement, et un autre souvenir assez rigolo avec Michel, c'est que quelques années, oh oui, assez rapidement après, peut-être 1981 ou 82. René Martin nous invite à un concert en duo à Nantes. Et donc, le matin du concert, on se retrouve sur scène et je vois que sur une assez grande table, il avait étalé au moins une trentaine d'anches. Les anches, donc, c'est les petits morceaux en bois qu'ils mettent sur le bec de la clarinette. Et alors, ça m'a permis d'apprendre une chose, c'est que ça peut changer complètement la couleur de la sonorité de la clarinette. Et Michel me dit, ça t'ennuierait d'aller dans la salle et puis d'écouter et puis de me dire. J'ai fait ça pour la trentaine d'anches. Ça a duré plus d'une heure. Et Michel, qui est évidemment un homme tout à fait unique comme personnalité, immense musicien, type avec un humour très particulier, très drôle, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à décider. Nicolas Angelich était un petit peu dans ce style, vous voyez. Oui. C'était aussi un peu, oh, je ne sais pas ce que je dois faire, est-ce que tu crois que je devrais faire ça ou ça, etc. Ouais. Et Michel, c'est un petit peu ça. Et quand j'ai raconté l'histoire, un peu de temps après, je ne sais plus quel pianiste, peut-être Alain Planès ou Jean-François Essert, je ne sais plus, il me dit... Ah, il t'a fait le coup aussi. Oui, tu le fais une fois et puis...
Mais qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui, enfin, c'était il y a 2-3 ans pendant le confinement, oui, de retourner en studio avec Michel Portal, de graver un autre programme avec lui?
D'abord, on ne s'est pas connus en 77 et puis on s'est retrouvés en 2021, je ne sais plus, ou 22. On s'est quand même vus plusieurs fois entre.
Mais vous aviez enregistré d'autres disques ensemble depuis ou pas? Non, c'était le seul.
Oui, on a fait ce trio et puis maintenant il y a ce... Bien, je ne sais pas, je me suis dit, mais quand même, c'est un monsieur qui a... Je ne sais pas, est-ce qu'on a le droit de dire, mais bon, c'est quand même un monsieur qui a 80... il avait passé 80 ans, en tout cas. Oui. Et je me suis dit, mais quand même, c'est mon plus vieil ami parmi les musiciens. Je n'ai que des bons souvenirs avec lui. Vous voyez, je n'ai pas un souvenir d'un concert un peu moyen. À chaque fois, c'est une recherche vraiment de donner le maximum et avec un regard sur les œuvres qui est chaque fois... Il n'y a pas de réchauffé chez lui, si vous voulez. Et voilà, j'en ai parlé avec Michael Adda, le directeur de la Dolce Volta. Après, il y a eu le problème du confinement, ça a été compliqué pour se retrouver à Metz, etc., etc. Mais on l'a fait. Thank you.
le final de la sonate pour clarinette et piano de Poulenc par Michel Portal et Michel D'Alberto. Michel D'Alberto qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. C'est avec la sonate de Poulenc que s'ouvre cet album qui nous conduit ensuite vers le romantisme allemand avec Brahms, Schumann jusqu'à Berg. Cette sonate, Michel Portal, il l'a très souvent jouée. Il a connu lui-même Francis Poulenc. Oui. Qu'est-ce que cela représente pour vous de jouer cette sonate avec Michel Portal?
Ben, il a bien connu Poulenc, il l'a joué avec lui, et surtout il a très bien connu Jacques Février. Et Jacques Février, qui était vraiment très très proche de Francis Poulenc, peut-être encore plus que le compositeur lui-même, je pense que c'est Jacques Février qui avait l'esprit, la personnalité qu'il fallait, probablement la sonorité qu'il fallait au piano aussi pour, dans cette sonate. Et Michel a une approche qui est assez différente de la plupart des clarinettistes qui en font souvent une œuvre peut-être un peu trop néo-romantique. Alors que Michel Portal, lui, n'a pas du tout cette idée. De par sa double culture, évidemment, la culture de musicien classique puis de musicien de jazz, il a gardé cet esprit pour cette sonate et je pense que c'est lui qui a raison.
Alors vous, Michel D'Alberto, qui connaissez bien le répertoire français, quel est votre rapport à la musique de Poulenc? Vous écrivez à propos de cette sonate, notamment qu'elle est très directive, alors qu'on a une impression de liberté quand on vous entend jouer tous les deux cette œuvre.
Bien, ça prouve que l'influence de Michel Portal a été excellente sur mon approche de la sonate. Je dois reconnaître une chose, je ne suis pas un immense admirateur de la musique de Francis Poulenc. J'ai joué le concerto pour deux pianos avec Alexandre Tarot. Pour moi, les chefs-d'œuvre, vraiment, ce qu'il y a de mieux dans l'univers de Poulenc, ce sont les mélodies. Poulenc a été un type qui avait un sens de la mélodie, un sens mélodique exceptionnel. La chose qui me dérange souvent dans sa musique, c'est que c'est parfois un peu trop prévisible. C'est-à-dire qu'il emploie un peu tout le temps les mêmes harmonies, les mêmes enchaînements harmoniques, les mêmes accords. Mais l'autre chose qu'il avait aussi de très, très... Enfin, c'est ce sens de la poésie. Il s'est rarement trompé dans les poètes qu'il a mis en musique. C'est admirable. Donc, les mélodies de Poulenc, c'est un trésor absolu.
Alors ici, c'est sa sonate, mais il y a cette notion de souffle, hein, sonate pour clarinette, jouée par Michel Portal.
En plus, c'est la dernière œuvre de Poulenc.
C'est l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre.
Oui, oui.
Qu'est-ce que le souffle de la clarinette vous apporte, vous qui avez l'habitude, Michel D'Alberto, de jouer avec des différents partenaires? Mais est-ce que lorsqu'on est avec un instrumentiste avant et un musicien comme, en plus, Michel Portal, qui a l'habitude de fréquenter différents univers, qui s'est illustré dans le jazz. Comment est-ce que cela vous porte musicalement?
D'abord, il y a un côté totalement envoûtant dans la couleur et la sonorité de la clarinette. Quand j'étais en Chine, j'ai joué avec un oboïste, qui est absolument magnifique, avec également une sonorité qui vous envoûte. Mais je dois dire que la clarinette, il y a ce côté, vous passez un petit peu dans un autre univers. Ça évoque, ça touche en vous des choses que je crois qu'aucun autre instrument ne vous fait réagir de cette manière. Et c'est presque dangereux d'ailleurs. Et Michel en était tout à fait conscient. Je me souviens que quand on faisait des concerts ensemble, il voulait toujours que je joue quelque chose solo parce qu'il disait, il y a un moment où la sonorité de la clarinette, ça fatigue quelque part. Ça énerve un tout petit peu l'ouïe du public. Et voilà. On a fait évidemment les deux sonates. Là, on a choisi de faire la... C'est lui qui l'a choisi d'ailleurs, de faire la seconde.
De Brahms.
De Brahms, oui, pardon. En revanche, c'est moi qui ai voulu faire les romances de Schumann, qui sont originalement pour le hautbois. Je me suis dit que ça valait la peine de les faire pour le disque. Et les pièces de Berg, on les a fait depuis le début.
Alors on écoutera Berg tout à l'heure. Pour le moment, on se plonge dans Brahms.
Mmh.
Le deuxième mouvement, l'Allegro Appassionato de la deuxième sonate opus 120 de Brahms par Michel Portal et Michel D'Alberto. Un nouvel extrait de cet album publié par le label La Dolce Volta que l'on écoute ce soir sur Radio Classique avec Michel D'Alberto. On vous retrouve ici avec l'un de vos plus anciens amis et partenaires dans le monde de la musique. Vous fréquentez beaucoup la jeune génération. Vous enseignez, vous étiez en Chine tout récemment, où vous avez entre autres donné des masterclass. Vous avez formé de merveilleux pianiste que l'on voit briller sur les scènes françaises et internationales. On vous voit souvent d'ailleurs dans la salle lorsque de jeunes pianistes se produisent. Quelle relation entretenez-vous avec la nouvelle génération avec qui vous partagez aussi parfois la scène? Quel regard portez-vous sur ces jeunes musiciens?
Regard très admiratif. Quand j'avais 22, 23 ans, en fait, je ne regardais que les musiciens plus âgés. Je ne m'occupais absolument pas de mes contemporains, en quelque sorte. Je les ai totalement ignorés. Et je n'ai commencé à m'intéresser vraiment aux jeunes que quand j'ai commencé à enseigner. Et en fait, pendant pas mal d'années, l'enseignement ne m'a pas intéressé. Je faisais de temps en temps, comme ça, de temps à autre, au Japon, en Allemagne, on ne sait plus où, au Canada, des masterclass. Et je serai éternellement reconnaissant à mon ami Bruno Mantovani pour m'avoir dit, quelques mois avant d'être nommé directeur du conservatoire de Paris, il m'a dit: si je suis nommé, je veux que tu aies une classe. Dès le premier recrutement, je veux que tu te présentes et il faut vraiment que tu aies une classe. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a été un élève de Perlmutter, qui a bien connu Magaloff, etc., etc., tu n'enseignes pas et que tu ne transmettes pas ce que tu as appris. Donc j'ai dit d'accord. C'est comme ça qu'en 2011, j'ai été nommé professeur. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai eu quand même quelques élèves qui maintenant font des carrières.
Qui eux aussi ont eu beaucoup de chance de vous avoir comme professeur.
Ça, il faudra leur demander. Mais dans l'ensemble, je garde de bonnes relations avec eux. On se voit assez régulièrement. Jean-Paul Gasparian, Ismaël Marguin, Jonathan Fournel. Je préfère arrêter tout de suite. Donc je suis ravi d'être en contact avec les jeunes. Et en Chine, c'est peut-être encore plus intéressant du point de vue de la relation avec les jeunes, parce que non seulement ils sont brillantissimes, mais ils comprennent très très vite. Et évidemment, ils sont fascinés d'avoir un musicien qui leur dit « Oui, mon professeur, c'était Vlado Perlmutter, il a été un élève de Cortot, il a travaillé Ravel, la musique de Ravel avec Ravel lui-même et il a connu Fauré. » Alors là, ils hallucinent.
Voilà, la Chine où vous étiez il y a quelques jours encore, Michel D'Alberto, vous aimez la nouvelle génération, vous aimez la génération plus ancienne, comme celle que représente Michel Portal, aux côtés duquel vous venez d'enregistrer. On va se quitter avec quelques notes de Berg. Sachant qu'on vous retrouvera cette saison en concert autour de la musique de Fauré dont on célèbre le centenaire. Vous n'avez pas attendu son centenaire pour vous intéresser à sa musique. Vous allez beaucoup jouer ces prochains mois.
J'en ai pas mal joué en Chine, effectivement. Ouais. J'en jouerai aussi au Japon. Mais bon, l'année prochaine, 2025, ça va être le 150e de la naissance de Ravel.
Ah bah oui.
Eh bah oui.
On se régale, hein, musique française, année Fauré, année Ravel. Voilà, on va pas s'en plaindre. Merci beaucoup Michel D'Alberto. Donc je rappelle la sortie de cet album avec Michel Portal sous le label La Dolce Volta.
Merci.
L'une des pièces pour clarinette et piano opus 5 de Berg par Michel Portal et Michel D'Alberto, un nouvel extrait de cet album sorti sous le label La Dolce Volta.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Alors cette semaine, vous nous emmenez en Allemagne suivre la tournée du violoncelliste Nicolas Hallstedt.
Voilà, exactement. Et si je vous invite en effet à ce petit voyage en Allemagne qui passera ce soir par Stuttgart et demain par Bayreuth, c'est pour suivre donc ce musicien remarquable. Pour être tout à fait sincère, l'idée m'en est venue dimanche dernier au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. En effet, le violoncelliste Nicolas Hallstedt avait rejoint le quatuor Belcea lors du concert du matin pour interpréter notamment le quintet avec deux violoncelles de Franz Schubert, cette page sublime entre les sublimes. On dit qu'Arthur Rubinstein, le pianiste, disait vouloir l'entendre sur son lit de mort, une pièce elle-même testamentaire puisqu'elle a été composée par Schubert l'année de son propre décès en 1828. Et Nicolas Hallstedt y a fait preuve de la même technique étourdissante et de la même musicalité inspirée et bouleversante que ses camarades. C'est un artiste très complet qui fait une carrière de chambriste, donc de soliste bien sûr, sans oublier aussi qu'il prend régulièrement la baguette du chef d'orchestre. Et son chemin passe par l'Allemagne, à savoir son deuxième pays, puisque c'est un artiste franco-allemand. Et ce soir et demain, comme on le disait, il va nous proposer un programme varié et stimulant. Il est en compagnie de l'orchestre de chambre de Stuttgart et il va parcourir plusieurs siècles d'histoire de la musique avec eux, en commençant par Joseph Haydn et son fameux concerto en ut, lequel Haydn clôturera également le concert avec la 47e symphonie. Et puis entre ces deux pôles de l'époque classique, des œuvres beaucoup plus proches de nous dans le temps.
Alors justement, Emmanuel, pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, j'essaye. Alors d'abord, voici Aroura de Yanis Xenakis. C'est une courte pièce d'une douzaine de minutes, écrite en 1971 pour un petit orchestre à cordes. C'est une référence à la Grèce d'Homère, avec une évocation des textures de la terre, c'est le mot Aroura, douce ou rugueuse, maternelle ou plus sauvage. Viendra ensuite une grande page pour le violoncelle et orchestre, le concerto de Vaja Azarashvili, musicien géorgien né en 1936 et décédé tout récemment puisque c'était en février dernier. Il a écrit cette œuvre en 1970, soit une année plus tôt que Aroura. L'inspiration est très très différente, le style est très différent de l'œuvre de Xenakis. Il mêle des influences traditionnelles à la musique dite savante et il déploie donc une inspiration très lyrique, d'écoute tout à fait accessible et séduisante. Dès les premières mesures de l'œuvre, par exemple, l'auditeur est aussitôt plongé dans une ambiance prenante, poétique, avec des pizzicati de cordes, comme de cordes d'alto précisément, comme des petites gouttes sur une nappe de violon aigu qui nous emmène au 7e ciel. Quant au violoncelle solo, il est invité à faire naître tous les trésors et tous les atouts de son instrument, notamment avec des contrastes de dynamique extrêmement poussés, des pianissimi là aussi ineffables, et puis un recours à la nature très très vocale du violoncelle. On sait que cet instrument chante quand il est sous des doigts et un archet de grand talent, ce qui sera le cas. Donc c'est un programme qui invite vraiment à découvrir les très nombreuses facettes du talent et de la personnalité de Nicolas Hallstedt. Une autre facette de son talent, on la découvre tout de suite dans Janáček.
Un extrait de Pohatka, conte de fées de Leo Janáček, par le violoncelliste Nicolas Hallstedt et le pianiste Fazil C. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage en Allemagne.
Merci à vous de m'avoir accompagné.
Merci à Charlotte Tour-Lassalle pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, on repart en voyage, je vous emmène à Venise, célébrer Forêt avec le Palazzetto Bruzane. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.